France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Déborah Dagobert et Xavier Atto à la technique. Bienvenue en ce beau samedi 5 juin sur France Musique. Nous fêtons aujourd'hui les 80 ans de Martha Argerich. Nous en parlerons à 7h45 avec Bertrand Boissard qui signe un beau portrait de la pianiste dans le magazine Diapason. Mais nous célébrerons aussi la Castafiore à 8h. Ce sera dans la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin qui nous apprendra à vocaliser. Et puis le 5 juin, c'est également la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, bien Sophie Anastasio nous emmènera sur son porte-bagages pour son reportage à la découverte du projet Accordez vos vélos du collectif Les Forces Majeures. Et puis quand l'écologie devient source de création, à 8h30, Chantal Latour, musicienne, artiste très engagée sur la question, sera notre invitée. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol, vous le savez, il mettra cette semaine en lumière l'album Neighborhoods du musicien américain Ernest Hood. Très bon réveil.
Thank you.
Quel plaisir de pouvoir errer dans les bois, les forêts, parmi les arbres, les herbes, les rochers. Personne ne saurait aimer la campagne comme moi. Ça, ce sont les mots de Beethoven écrits en mai 1810. Un extrait de cette symphonie pastorale de Beethoven, jouée ici par Claudio Abbado, l'orchestre philharmonique de Berlin. Beethoven et son atmosphère bucolique, l'atmosphère bucolique de cette symphonie, de ce troisième mouvement, pour célébrer cette journée mondiale de l'environnement.
France Musique, bon anniversaire Martha Argerich.
Et autre événement du jour, les 80 ans de l'immense pianiste Martha Argerich, née le 5 juin 1941 à Buenos Aires en Argentine. Alors, comment résister à son interprétation du deuxième mouvement du concerto en sol majeur de Maurice Ravel? Sans doute l'œuvre qui m'a le plus été demandée ces dernières années par les musiciens invités en studio. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Allez, remontez la couette quelques minutes et profitez. Le sublime deuxième mouvement du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel avec Martha Argerich, l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Claudio Abbado à la direction. Un concerto que vous pouvez également revoir, découvrir en images. Ça se passe sur l'espace concert de France Musique où nous vous proposons cette captation, cet enregistrement de ce concerto par Martha Argerich avec l'Orchestre National de France et Emmanuel Krivine. Concert enregistré le 5 octobre 2017, c'était à l'Auditorium de Radio France. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin le journaliste Bertrand Boissard. Bonjour Bertrand.
Bonjour Saskia Deville.
Mais bienvenue sur France Musique. Vous avez réalisé dans le magazine Diapason du mois de mai un très beau portrait de la pianiste Martha Argerich qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Et vous commencez avec cette phrase. Il y a Martha Argerich et il y a tous les autres pianistes. Comment expliquer, Bertrand Boissard, qu'elle fascine toujours autant aujourd'hui ?
C'est bien le mystère. C'est bien le mystère. Elle dure depuis plus de 60 ans. C'est une carrière sans ombre. Et véritablement, sa technique est toujours au plus haut niveau. Mais ce qui fascine plutôt, c'est le mystère, ses apparitions, ses disparitions et sa générosité, son côté aussi véritablement sur scène reine bohémienne. C'est tout un ensemble, c'est une personnalité hors du commun, une pianiste digne d'Horowitz par l'électricité de son jeu, par sa sonorité si changeante, mais aussi, voilà, une sorte de pitié, de prophétesse. Tout le monde veut s'approcher d'elle, la toucher. C'est une aura.
Une légende. Elle-même n'aime pas être considérée comme une légende, Martha Argerich. Elle fuit plutôt, justement, tout ce qui est célébrité, la lumière.
Oui, c'est vraiment une anti-star. D'ailleurs, quand elle joue, elle se cache derrière sa chevelure, sa crinière impressionnante. Ça a toujours été comme ça. Et voilà, elle s'habille de manière extrêmement simple dans la vie de tous les jours. Même sur scène, elle ne fait pas d'efforts particuliers. Voilà, elle s'habille comme elle veut, elle est comme elle veut. C'est une femme libre.
Une femme libre, et ça, eh bien, on le comprend aussi en lisant le portrait que vous lui consacrez donc dans Diapason. Artiste généreuse qui recherche sans cesse le contact, Bertrand Boissard.
Oui, le contact, notamment avec les jeunes, la jeune génération. Elle aime beaucoup s'entourer, voilà, de jeunes pousses qui n'ont pas tout un talent extraordinaire, mais voilà, elle leur donne des ailes et elle donne des ailes à tous ses partenaires. Et elle aime finalement le contact avec le public, car si elle est vraiment, c'est une traqueuse. Avant le concert, elle est terrible. Elle passe par des affres absolument incroyables, mais sur scène, elle se libère. Et là, elle a besoin du contact avec la scène et finalement elle joue beaucoup, elle joue de plus en plus presque et elle annule de moins en moins.
Pour notre plus grand plaisir évidemment. Alors on remonte un petit peu aux sources de sa carrière, de ses premiers pas en tant que musicienne avec votre article, Bertrand Boissard. Tout a commencé par un défi lancé par un petit camarade, vous nous le racontez ?
Absolument, elle était encore au jardin d'enfants, elle avait 3 ans à peine. Et elle était mise au défi par un de ses petits camarades, voilà, de reproduire un piano, était là, de reproduire un air, voilà, un air, c'est vrai que, assez connu, et elle qui n'avait jamais touché un seul clavier de sa vie, voilà, mise au défi, car c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez elle, c'est vraiment de répondre au défi, et bien elle a reproduit parfaitement cet air sur le clavier, voilà, avec une oreille déjà exceptionnelle. Et ces programmes ont été effectivement fulgurants.
Et tout commençait déjà très bien pour cet immense pianiste qui fête donc ses 80 ans aujourd'hui. Je vous invite à aller, eh bien, découvrir ce portrait qui lui est consacré donc dans le magazine Diapason du mois de mai. On apprend aussi qu'elle voulait devenir médecin. Et puis, il y a aussi cet émouvant témoignage de Daniel Barenboim qu'elle a rencontré à la toute fin des années 40 à Buenos Aires. Il avait 7 ans, elle en avait 8. Courez donc acheter ce numéro, bien évidemment, chers auditeurs. Bertrand Boissard, vous nous conseillez aussi quelques enregistrements et vous en avez choisi un pour nous ce matin. Vous nous en dites quelques mots ?
Oui, c'est une danse argentine de Alberto Ginastera. Alors pourquoi j'ai choisi cette danse argentine ? D'abord parce que finalement, elle est argentine, même si elle ne vit plus là-bas depuis plusieurs décennies. Elle vit en Europe, c'est une Européenne maintenant. Mais ses racines sont en Argentine et Alberto Ginastera est le grand compositeur de musique classique argentine du XXe siècle. Et c'est dans sa Argentine, et particulièrement celle qu'on va écouter, ils sont vraiment, quand elle joue, une quintessence quoi, de son art, c'est-à-dire avec une quelque chose de très mystérieux dans le toucher, une sonorité de rêve, et puis d'un coup une passion qui affleure et qui explose. Voilà, c'est un condensé de son art et de ce qu'on aime chez cet artiste vraiment incomparable.
Eh bien, on va l'écouter. Merci beaucoup Bertrand Boissard, et puis à très bientôt sur France Musique.
Merci à vous.
France Musique. Bon anniversaire, Martha Argerich.
Et pour continuer cette journée en compagnie de Martha Argerich, rendez-vous dans Portrait de famille à 14h. Philippe Cassard reviendra sur sa longue et prolifique carrière. Demain à 15h30, c'est Marine Nachiche qui nous parlera du duo qu'elle forme avec le violoniste Guidon Kremer. Et si vous en voulez encore plus, allez réécouter le Van Beethoven d'hier, ainsi que le concert diffusé hier soir. Concert à Chantilly avec Martha Argerich, l'orchestre Les Siècles, Ion Marine à la direction, mais aussi avec le pianiste Ido Barshail, le violoniste Maxime Wengerhoff et le violoncelliste Misha Maïski. Et c'est l'heure de notre concours, la 35e édition du Festival de l'Abbaye de Saint-Michel en tirage, musique ancienne et baroque, se déroulera à partir de demain jusqu'au 4 juillet en partenariat avec France Musique, avec quelle affiche ? Les musiciens de Saint-Julien, Lucide Richardot, Philippe Jarouski, l'arpeggiata, le concert de la loge avec Sandrine Pio et Véronique Jean. Ça, ce sera pour le 20 juin prochain. Magnifique affiche du Festival de l'Abbaye de Saint-Michel en tirage. La billetterie, pour la billetterie, ça se passe en ligne. Rendez-vous sur festival-saint-michel.fr. Alors pour fêter ça, je vous offre un disque Le Requiem de Niccolò Giomelli, enregistré par Giulio Prandi et le chœur et orchestre Ghislieri, avec les voix de Sandrine Pio et Carlo Vistoli. Disque paru chez Arcana. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur « Contactez-nous » et vous nous envoyez la bonne réponse à cette question. Avant de devenir l'immense chanteuse qu'elle est, Sandrine Pio jouait d'un instrument. Était-ce de l'harpe, de la cornemuse ou de la guimbarde? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. La toute fin du Requiem de Niccolò Giomelli. Alors, on a entendu la voix de Carlo Vistoli. Sandrine Pio était juste avant. Elle est sur ce disque enregistré avec le chœur et orchestre Ghislieri et Giulio Prandi à la direction que je vous offre ce matin. Sandrine Pio qui était d'ailleurs mise à l'honneur dans l'émission En Piste. C'était il y a 2 semaines et c'est à aller réécouter sur francemusique.fr.
Lundi, France Musique célèbre la création avec une grande soirée réunissant des artistes et des compositeurs d'aujourd'hui depuis la Scala Paris.
Nous allons fêter la musique vivante avec de nombreux compositeurs et interprètes.
Deux créations mondiales, des œuvres d'esthétique plurielle venues du monde entier, on fera de belles découvertes.
Action et création, compositrice, compositeur, fêtons en concert la musique de notre temps.
C'est à 20h, lundi sur France Musique et francemusique.fr.
En partenariat avec le Centre National de la Musique.
Le Crédit Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, donne le la à la musique. Vous avez été 600 à nous envoyer vos chansons originales pour le concours de Radio France, chanté 20 ans en 21. Aujourd'hui, il en reste 10 et c'est à vous de voter, cher public. À l'issue de vos votes, l'heureux gagnant sera révélé par le jury de Radio France et sa présidente Pomme. Vous avez jusqu'au 15 juin pour voter sur rifix.fr. À vos claviers. Avec le soutien de la SACEM.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
Très bon réveil sur France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Alors on écoutait le jingle à l'instant, il y en avait de la vocalise un petit peu coincée. On peut aussi penser à Bianca Castafiore évidemment. Aujourd'hui vous allez aborder un important aspect de la technique vocale.
Oui, j'aimerais évoquer une technique vocale bien particulière, l'art de vocaliser. Pour faire court, vocaliser c'est chanter en parcourant une échelle de son sur une seule syllabe. Prenons par exemple un extrait pour chœur du Messie de Handel, les voix de femmes puis les voix d'hommes se lancent dans des vocalises effrénées.
Mais la vocalise n'est-elle pas tout simplement une technique pour se mettre en voix ?
Oui, indéniablement, le travail de vocalise fait partie de l'échauffement individuel ou collectif des chanteurs, amateurs ou professionnels. Mais dans de nombreuses œuvres baroques et classiques, on rencontre de redoutables passages vocalisés pour chœur. Handel est l'un des plus gourmands dans le genre, mais Bach n'est pas en reste.
Et effectivement, on n'en manque pas ici. Comment travailler ce type de virtuosité pour chœur, Marc-Olivier ?
Alors d'abord par le travail individuel, la vocalise bien sûr, et comme le dit le merveilleux chanteur Marc Moyon, il faut simplement se muscler. Et pour ce faire, il existe de nombreux traités qui proposent des exercices. J'en citerai deux qui font autorité, l'un du 19e siècle et l'autre de la fin du 20e siècle. Le traité de l'art du chant de Manuel Garcia, et structure du chant de Richard Miller, deux bibles du chanteur. Après une enquête digne de l'inspecteur Clouseau ou de Tintin, peut-être, il y aurait des différences d'approche pédagogique. L'une par le travail du diaphragme, l'autre par celui du larynx, mais évidemment les deux doivent fonctionner ensemble. Et puis par ailleurs, il semble que certains chanteurs aient la capacité de vocaliser facilement sans rien apprendre, le don.
Ça c'est pas mal, hein, ça aide évidemment. Alors tout cela est d'une clarté admirable, Marc-Olivier, mais l'utilisation des vocalises est-elle toujours virtuose ?
Non, fort heureusement. Et l'une des plus belles séquences pour chœur sans parole est le troisième des nocturnes de Claude Debussy.
Que nous allons écouter. Merci beaucoup Marc-Olivier.
Mais avec plaisir.
Pour cette chronique, on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec joie.
Bon week-end, bonne journée.
Merci.
Thank you.
Un extrait des Sirènes, des Nocturnes de Claude Debussy, ici avec le Collégium Vocal de Gand, l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Yannick Nézet-Séguin à la direction pour illustrer cette chronique de Marc-Olivier Dupin ce matin. Il est 8h10. Alors samedi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement, promulguée par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans quelques instants, Sophie Anastasio nous emmènera faire un tour à vélo dans son reportage à la découverte du projet Accordez vos vélos du collectif Les Forces Majeures. Et puis, quand l'écologie devient source de création, à 8h30, c'est Chantal Latour, musicienne, artiste très engagée sur cette question, qui sera notre invitée. Sequele fida, air d'Antonio Vivaldi, chanté ici par Léa Desandré, accompagné par l'ensemble Jupiter. Il est 8h16. Mêler musique et transport écologique, c'est ce que propose le projet Accordez vos vélos du collectif Les Forces Majeures. En octobre prochain, une tournée à vélo est prévue de Paris à la Seine-Saint-Denis, avec sur la ligne de départ un concert auquel plusieurs collégiens sont invités à participer. Reportage en répétition au collège Gustave Courbet à Pierrefitte, signé à Sophia Anastasio.
Dans le gymnase au sol rose du collège Gustave Courbet, les élèves s'installent un à un sur les gradins. Ils viennent pour répéter deux chansons, À bicyclette d'Yves Montand et Mother Nature's Son des Beatles. Tout ça dans le cadre du projet Accordez vos vélos que nous présente Raphaël Merlin. Il est violoncelliste du Quatuor Ébène et directeur musical des Forces Majeures.
C'est un projet à la croisée d'un élan musical déjà relativement ouvert, éclectique et citoyen, avec la thématique de la mobilité douce et plus particulièrement du vélo. Ça consiste à au maximum faire de la musique et au maximum faire de la musique en pédalant. En gros, c'est ça le concept.
On va donner de la voix tous ensemble. On a trois quarts d'heure pour chanter À bicyclette trois fois et pour chanter Modern Nature Son trois fois. Ok ?
Le 2 octobre prochain, l'orchestre des Forces Majeures ainsi que des musiciens amateurs se retrouveront à 11h à la Canopée des Halles à Paris pour donner un programme symphonique. Ils seront rejoints par les collégiens de Pierrefitte, de Bobigny et de Paris qui chanteront les deux chansons travaillées. Et ensuite, tout le monde pourra enfourcher son vélo, direction Saint-Denis. Romain Ducancel, directeur des Forces Majeures, nous explique le trajet.
Le parcours est pratiquement finalisé. On partira des Halles sous la Canopée. On fera une première pause place de la République, puis on empruntera le canal Saint-Martin en direction de la Villette en faisant une halte dans la cour d'une école maternelle, la cour de l'école Tandou. Et puis on jouera à la Villette et ensuite on traversera le périphérique pour faire une première escale probablement à Pantin, une seconde à Aubervilliers et on aboutira à Saint-Denis et finir en beauté en feu d'artifice avec un gros concert symphonique sur le parvis de l'hôtel de ville de Saint-Denis.
Un festival itinérant donc, à vélo et avec des pauses musicales, ce qui peut poser des questions logistiques, raconte Raphaël Merlin.
Tout un tas de problèmes peuvent se poser. Le problème de l'instrument, comme vous dites. D'abord, moi je fais souvent du vélo-violoncelle ou du véloncelle, enfin appelé. Le violoncelle, c'est tout à fait possible, honnêtement. Et ça me fait bien rigoler quand on me dit « Mais tu fais ça, mais c'est hyper dangereux pour ton violoncelle. » Et jamais, quand je mets mon gamin sur mon vélo, quelqu'un va me dire « C'est hyper dangereux de mettre ton gamin sur ton vélo. » Enfin bon, les gens ne réfléchissent pas. La contrebasse, ça c'est vraiment difficile. C'est vraiment un problème. Le basson, ça a l'air simple, c'est quand même un peu lourd, mais ça se fait. Les instruments lourds, oui, c'est une question. Franchement, pour des distances courtes comme ça, 2-3 km et on se repose, porter un instrument, c'est quand même tout à fait envisageable. Et pour tout ce qui va être absolument impossible à transporter en vélo, comme par exemple des timbales, là, on s'arrange.
Mais surtout les Il faut les faire sortir à travers le masque.
Pour répéter le concert donné sur la ligne de départ, ce projet implique plusieurs séances de chant choral avec des collégiens de toute classe. Nous avons demandé à Mathis, Lila et Tania en 5e si cela leur plaisait.
Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des choses comme ça. Avec le Covid, il n'y avait plus de sorties. Il y avait juste la récré pour voir ses potes.
Ça fait bouger, ça donne envie. Voilà. Ça donne envie, ça bouge, ça fait chanter.
C'est des chansons que vous connaissiez?
Oui.
Lesquelles tu connaissais?
Juste à bicyclette. C'est mes grands-parents. Ils m'ont fait écouter.
Bah moi, je connaissais les deux musiques grâce à mes parents et à mes grands-parents.
Et moi, je connaissais Mother Nature Song parce que mon père, c'est un grand fan des Beatles.
Un hymne à la nature composé par Paul McCartney pour un projet qui se préoccupe lui aussi de la planète, Raphaël Merlin.
C'est pas vraiment du militantisme, c'est ça, c'est de l'expérience. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui maintenant, il n'y a plus qu'une poignée de climato-sceptiques dans le monde pour s'y opposer. On sait qu'on est, comme disait un grand Premier ministre, qu'on est tous sur une poêle à frire, donc il faut couper le feu quoi, en dessous. Et donc il faut chercher ce genre de solution, on n'a pas le choix. Ça peut paraître anecdotique, symbolique, naïf, bisounours, ça nous fait pas peur du tout. Mais bon, le maître mot c'est la force majeure, c'est la joie.
Grâce à l'association Arviva, un calculateur d'empreintes carbone sera présent sur la tournée. Cette journée est un projet pilote. Un autre projet de plus grande ampleur est en train de se monter pour avril 2022. 150 km en 15 jours entre Grenoble et Genève.
Moi, je pense que je vais monter à vélo et aller rejoindre ces musiciens pour cette tournée de 150 km entre Grenoble et Genève. C'est pas mal quand même. Eh bien, en tout cas, toutes les informations pour suivre, participer ou soutenir financièrement ce projet sont à retrouver sur le site forcemajeure.fr. Il est 8h22.
Le deuxième mouvement du septième quatuor de Beethoven, interprété par le quatuor Eben, dont fait partie Raphaël Merlin, qu'on écoutait dans le reportage de Sophie Anastasio un petit peu plus tôt. Beethoven, pour vous parler aussi de cette journée demain sur Arte, qui vous fera voyager pour une journée entièrement consacrée au compositeur. Elle se tiendra à partir de 12h45 jusqu'à 22h30 sur Arte et sur Arte Concert. Un tour de l'Europe en musique qui mettra l'honneur, eh bien, le compositeur avec les 9 symphonies retransmises depuis 9 lieux emblématiques du continent européen. Côté français, c'est l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qui a été choisi pour participer à cet événement exceptionnel. Il interprétera la 8e symphonie sous la baguette de Marco Lettonia. Rendez-vous donc sur Arte demain dès 12h45.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Comment pouvons-nous, par le biais de l'art, créer un avenir partagé, un avenir pour les humains, les animaux, les végétaux? À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous allons tenter de préciser notre position, d'explorer les options du futur et ceci bercé par le son de la Terre. Des sons de volcans, de dunes, de baleines, de vent ou d'eau. Bonjour Chantal Latour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Vous êtes musicienne, artiviste, membre de l'association S-Composition et du consortium Waterir. Comment décririez-vous notre planète aujourd'hui?
Voilà une question difficile un samedi matin. Comment je pourrais décrire? En fait, la planète, on l'a bien bousillée. Et nous tous, en particulier les humains, c'est-à-dire que nous en premier, les humains, on a beaucoup contribué à l'abîmer, à la dégrader et à la faire souffrir. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très 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 temps de transformer nos pratiques et notre regard vers cette planète, parce que la situation est grave.
De quand date le début de votre conversion écologique en tant qu'artiste, Chantal Latour?
Alors ça, c'est une question importante. En fait, moi, j'étais plutôt une militante. J'étais dans les mouvements de femmes, les mouvements de vieux, tout ce qui était autour de l'injustice sociale, etc. Et il se trouve que la question écologique n'était pas pour moi une urgence pendant pas mal d'années. Je me foutais un petit peu. Je trouvais ça très gentil, très bien et tout ça. Mais je me disais, bon, là, ils ont qu'à continuer. Moi, c'est pas mon business. Et puis, en fait, je vis depuis 50 ans avec Bruno Latour, donc qui est un philosophe des sciences et qui, depuis plus de 10 ans, travaille beaucoup sur cette question et qui s'en inquiète, évidemment, et qui a consacré énormément d'efforts pour à la fois partager avec les scientifiques l'évolution des choses ces dernières années, et puis aussi travailler avec des artistes en disant si les artistes ne s'emparent pas de cette question, on ne pourra pas prendre conscience et se rendre assez sensible à cette situation qui est dramatique. Et sans les artistes, on n'y arrivera pas. Donc c'est grâce à lui que je me suis intéressée de façon un peu plus sérieuse à la question.
Mais justement, alors, en tant qu'artiste, comment exprimer notre inquiétude face au réchauffement climatique? Comment donner de la voix? Je sais que vous êtes une grande amoureuse de la voix.
Alors, comment donner de la voix? Peut-être que je peux expliquer ce qu'on a essayé de faire. En 2015, vous vous souvenez, c'était cette année assez terrible, puisqu'il y avait à la fois, en décembre, la préparation de la COP21, qui était l'occasion de la rencontre de toutes les parties prenantes à l'échelle mondiale, à la fois responsables scientifiques, politiques et autres. C'était au Bourget. Il y avait cet événement-là. Et on s'est dit, en début d'année 2015, en janvier, moi, j'étais là dans ma tête, on se réunissait tous en se disant mais comment on va faire pour pouvoir peser un petit peu sur cette négociation et montrer un peu notre inquiétude. Et comme moi je suis chanteuse fanatique et que la voix pour moi ça a toujours été un outil formidable à la fois d'expression, à la fois politique et artistique, c'est-à-dire que la voix on en a tous et on peut tous l'utiliser pour dire des choses. Donc je me suis dit mais ça serait intéressant, même marrant, à l'échelle parisienne de se réunir et essayer de se rassembler pour trouver des moyens de faire entendre notre voix. Et à l'époque, il y avait la coalition climat qui s'est réunie à partir de janvier, qui réunissait toutes les grandes ONG, les associations d'écolos, les groupes catholiques, protestants, enfin il y avait Havas, Nicolas Hulot, enfin toute cette bande-là qui réfléchissait aux moyens de faire pression sur les négociateurs. Et donc on s'est réunis avec Jean-Pierre Sévos, qui est un compositeur avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, et avec aussi Jean-Marie Lowe et puis d'autres scientifiques ou artistes, en réfléchissant à quels seraient les moyens sonores, vocaux, pour peser sur cette négociation et comment s'associer à la coalition climat pour donner des moyens artistiques à cette expression.
Bye.
qu'on entend là, c'est un montage, et ça m'émeut beaucoup de l'entendre.
C'est magnifique.
Oui, qui a été fait par Nicolas Perrin, qui est un électroacousticien, dans lequel il associe des sons de la terre, des baleines et d'autres êtres vivants à un chant yoïque. Le yoïque, c'est un chant des Samis. Les Samis, ce sont des gens qui habitent entre la Norvège, la Suède et la Finlande et qui étaient présents lors de la COP21 en 2015 pour témoigner de leur urgence à eux, le fait qu'ils étaient en danger et qu'il fallait aussi qu'on les écoute, même s'ils n'ont pas beaucoup de place dans l'univers politique général. Donc, dans le cadre de ce travail autour de la grande clameur, on a essayé de les associer à nos différentes performances qui ont eu lieu cette année-là dans Paris.
Ça, c'était donc en
2015.
2015. Vous avez participé il y a deux jours à un colloque qui se tenait à l'Opéra Comique que j'ai suivi. La nature n'est plus un décor. C'était le titre de ce colloque. Alors, c'est un sujet qui, en 2015, l'était peut-être moins. Aujourd'hui, c'est un sujet qui occupe beaucoup les conversations. On le voit, les médias aussi. L'écologie. Vous constatez-vous, de votre point de vue, un éveil du monde musical?
Oui, ben oui, on peut dire qu'en 2015, la situation était beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que il y avait que les militants ou les gens déjà au courant qui s'inquiétaient, qui essayaient de peser sur ce qui se passait. Et nous, quand on a commencé à parler de cette grande clameur et à aller voir les différents groupes ou institutions, on nous regardait un petit peu avec des yeux ronds en disant qu'est-ce qu'ils ont à nous casser les pieds avec cette histoire. C'est pas notre business, en fait. Et ça a été très difficile, je trouve, d'essayer de faire prendre conscience déjà de l'urgence et d'autre part de montrer qu'il fallait, nous tous les habitants de la planète, réagir et témoigner de notre inquiétude et des pressions qu'on voulait faire sur les politiques. Donc, par rapport au colloque, oui, la situation a évidemment changé puisque ça m'a fait rire. Maintenant, on parle des problèmes pour les décors, les costumes, etc.,
des moyens.
Produits toxiques, tout ça. Donc, c'est super important. Mais il y a aussi grâce aux derniers événements, à la canicule il y a deux ans, il y a eu une évolution énorme par rapport à cette prise de conscience. Il y a eu aussi évidemment le Covid qui a fait aussi un temps d'inquiétude et aussi de réflexion sur qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qui est important pour nous. Donc la situation climatique, elle est devenue beaucoup plus présente partout, mais il y a encore un boulot dingue parce que on continue à faire les mêmes choses et les mêmes bêtises qu'avant.
Mais j'allais dire, c'est une réflexion qui touche les artistes. Est-ce que c'est une réflexion qui touche aussi le public? Est-ce que le public peut être sensible à une transformation de la manière de faire un spectacle de...
Ah, alors ça, c'est des grandes questions. Les artistes, on a une place. D'abord, on est tous artistes à des niveaux différents. Moi, je suis pas une artiste professionnelle. Je suis une passionnée de musique. Je chante et je fais beaucoup de musique et j'en écoute énormément. Mais les artistes professionnels, je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même pris une sacrée claque dans la figure avec le confinement et l'arrêt de toutes les activités publiques. Donc il y a eu aussi un énorme temps de je trouve d'approfondissement de à quoi ça servait ce qu'on produit, à quel rôle on joue. Et dans cette mesure-là, ce qui est important aussi de dire, excusez-moi si je suis un petit peu longue là-dessus, c'est aussi que la période actuelle, elle ressemble d'une certaine façon à la période du 16e siècle, au moment où il y a eu un grand changement de cosmologie avec les transformations autour de avec Galilée qui a apporté les éléments. Comme un petit élément important qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que le père de Galilée était musicien, était luthiste. Donc il a aussi sans doute beaucoup contribué et participé à ce travail de nouvelle vision du monde. Et aujourd'hui, eh ben, le monde a changé, la Terre a changé. On n'a plus cette Terre infinie qui existait dans le 16e. On est sur une Terre qu'il va falloir soigner, bichonner, protéger. Et cette Terre, elle s'est beaucoup refermée d'une certaine façon. Et il va falloir s'y intéresser sérieusement.
Qu'elle peut se faire écouter.
Parce qu'elle peut se faire écouter et que nous sommes nous-mêmes, nous les humains, avec plein d'autres êtres responsables de l'état de cette terre. On l'a bien bousillée, mais maintenant il faut arrêter et il faut peut-être conserver cette terre de façon beaucoup plus soigneuse qu'on l'a fait jusqu'à présent. Et les artistes, évidemment, c'est essentiel pour aider à cette prise de conscience et à cette prise de sensibilité de ce qui se passe.
Et puis il faut être à l'écoute des habitants aussi. On va écouter un extrait de Symphonia, un podcast que vous avez composé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Où atterrir. On l'écoute d'abord et puis on en parle.
L'idée qu'on pourrait passer de l'Anthropocène au Pholocène, non pas que l'Anthropocène s'achève, mais qu'en commençant à redéfinir cette époque comme une époque du chant, une époque des grondements même de la terre, une époque des sons, une époque aussi qui dirait la joie d'écouter le vivant.
L'outre, les loups errants, les champs lentes, houlettes, les houes, l'élan tout en l'air, l'été, enchante là, les choux, les chouettes, les chats, ou rats, chaud, le lourdé, les chanterelettes, chante, ah, chante, allez, enchante, à la lampe, tout le chant doué, tout chante, tout chante.
Je dis ce mot, quand ce mot j'entends, je deviens tout blanc,
cherche et je sens louche, 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 allez, chante, alouette, des champs ou des tours, les champs, les tranches lourdes, tourterèches, halte, lâchez, tâtez, en hâte. Râler, rouler, loucher, douter, toucher, chercher, hanter, aller, ourler, lécher, rendez, trancher, hacher, chanter, chanter, chanter.
La sécurité, hein, au centre, est une frontière où il se passe des choses.
Chantal Latour est notre invitée ce matin sur France Musique pour évoquer notamment et passons à ce projet. Où atterrir? Où sommes-nous? Où avons-nous atterri? Je vous pose la question.
Oui, alors ce projet, c'est la suite d'un livre qu'a publié Bruno en 2017.
Bruno Latour.
Bruno Latour, donc ce livre était un peu une réflexion sur aujourd'hui, comment se situer et comment politiquement pouvoir agir pour pouvoir correspondre un peu mieux à la situation. Et dans ce livre, il y avait des idées importantes sur, pour pouvoir transformer les choses et les formes politiques, il fallait partir de la propre description des habitants de cette planète. Et que c'est par cette description et par cette précision de leur attachement et de ce qui est important pour eux, qu'on pouvait peut-être redéfinir des formes politiques.
Voilà, vous avez mené une expérimentation dans l'Indre et dans Limousin cette année avec une soixantaine d'habitants à qui vous avez demandé justement d'observer.
Et de s'auto-décrire.
Et de s'auto-décrire.
Voilà. Et on a fait des enquêtes, tous, pour essayer de partir de ce qui était important pour nous. Et moi, j'ai fait, en tant que grande oreille et grande passionnée de musique, j'ai fait une enquête sur qu'est-ce qui, pour moi, était difficile et qu'est-ce qui me préoccupait. Et le titre de cette enquête, c'est le bruit. Le bruit étant mon caillou, et le caillou, chaque participant avait à définir son propre caillou. Et l'idée de cette histoire, c'est il y a que vous qui savez où est votre caillou dans votre chaussure. Et si vous pouvez le définir, vous allez pouvoir le décrire et peut-être l'enlever. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on travaille de façon très précise, c'est que aujourd'hui, avec la crise climatique, on est tous complètement écrasés par les informations, complètement ahuris par la catastrophe, et on se dit on n'y peut rien, c'est la panique, et on est totalement déprimé par ça. Et dans ce travail d'un an d'expérimentation, on a essayé de définir des choses très précises pour arriver peut-être à les bouger et surtout à les transformer en prenant conscience d'une autre façon, en étant un petit peu plus responsable de ce qui pouvait changer.
J'allais le dire, en tant que citoyen, nous avons notre part à jouer également. Vous pouvez aller, chers auditeurs, faire un tour sur le site ouatterrir.fr. On va mettre évidemment cette adresse sur la page de Musique Matin sur francemusique.fr pour que vous puissiez bien aller explorer ce projet Où atterrir. Il faut donc imaginer de nouvelles formes de spectacle, Chantal Latour, à l'avenir pour convier ces sujets.
Oui, certainement, il faut à la fois pouvoir nous-mêmes inventer, par exemple, le podcast qu'on a entendu avec Vinciane Després, Valérie Philippin, et Pierre Blom, qui était dans l'extrait qu'on a entendu de ce podcast. Il y a cette partie de description avec les formes qu'on peut avoir, soit de l'écriture, soit du dessin, soit de la musique, toutes ces formes, soit des cartographies aussi, c'était une partie importante du projet. Mais il y a aussi évidemment cet immense travail que les artistes doivent faire dans tous les domaines. Et là, je pense qu'il y a un petit retard sur la musique. Les arts plastiques ont peut-être été un peu plus en avance, un peu plus le théâtre. Mais les musiciens, les compositeurs, ben allez-y, il va falloir que vous puissiez nous décrire qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont les formes que vous avez envie de donner et sortir aussi peut-être de la vision individuelle du compositeur pour arriver à des pratiques un peu plus collectives.
Mais vous voyez, vous parlez déjà au compositeur qui est avec nous en studio, Christophe Chassol, qu'on va écouter dans un instant pour sa chronique, qui a beaucoup réagi à ce que vous venez de dire. Mais merci beaucoup, Chantal Latour, d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être venu nous voir en studio. L'Allegretto au final de cette sonate numéro 17 de Beethoven, La Tempête, avec Daniel Barenboim au piano. Il est 8h50.
Chère auditrice.
Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Je vais fort bien, oui, ça va très bien.
Je crois que ce dont on vient de parler vous parle beaucoup justement.
Oui, beaucoup. Ouais.
Par rapport à la chronique que vous nous avez préparée.
Oui, ça tombe hyper bien, je ne savais pas du tout que Chantal Latour venait. Je vais vous parler d'un compositeur qui a sorti un album en 75 qui s'appelle Neighborhood, c'est-à-dire
le voisinage.
Voilà. Et lui-même s'appelle Ernest Hood. Et c'est un écrin là de douceur de field recording. Vous savez ce que c'est que le field recording?
Mais dites-le nous.
Bon, c'est l'enregistrement de terrain. Donc ça, voilà, ça résonne complètement avec ce que disait Chantal. On va écouter ça. Ça s'appelle Neighborhood. C'est juste magnifique. On écoute un petit peu. Bon bah, le field recording, ça
où
nous apprend à écouter, quoi, oui. Vraiment entendre, pas juste entendre, c'est écouter, quoi. Là, on est dans la région de Portland, dans la banlieue de Portland, en 75. Enfin, on n'est pas en 75, l'album est fait en 75, mais il est fait à partir d'enregistrements d'une vingtaine d'années auparavant, d'Ernest Woods, compositeur, guitariste, donc de la région, qui est né en 1923, mort en 95. Et c'est tellement touchant, en fait, c'est... Vraiment, il nous explique ce que c'est que la nostalgie, mais une belle nostalgie là qui avance, qui est pleine de douceur vraiment. Genre, il y a des enfants après l'école dans un magasin qui se disputent un Pepsi. Moi, bon, c'est aux États-Unis, mais c'est vraiment universel ces sentiments. Je sais pas si vous avez vu le film Adolescente de Lipsitch.
Oui.
Et ben, je sais pas, je regardais ce film et je me disais mais mon Dieu, j'ai. Ce film m'a rappelé comment je pensais à l'époque, quand j'avais 14 ans. Mais tout mon écosystème autour, c'est-à-dire les gens que je voyais, les pensées que j'avais, les structures de pensée, les formes géométriques que je pouvais voir. C'est ça, vraiment, cette musique-là, cet album, moi, il m'a permis de trouver des souvenirs dont je me souvenais pas, quoi. Enfin, de reconvoquer.
De faire remonter des souvenirs.
La vraie synesthésie. Et alors, c'est ce que le field recording permet aussi, c'est qu'il met de la réalité. Il met vraiment du réel dans la musique. Donc on a bruit, musique, bruit, son, qu'on organise en musique. Et là, c'est vraiment fait avec...
Mais comme vous dites, avec douceur.
Avec douceur. Donc il y a toutes sortes de bruits. Il y a des bateaux à vapeur, il y a des enfants qui jouent, il y a des voitures qui passent. On va écouter. Ça, c'était Saturday Morning Dose. C'est-à-dire, il n'y a pas école le samedi matin. On peut s'étirer. Ça ressemble un peu à de la musique indienne. Un peu, il y avait le mantra, un peu le tempura, un petit peu comme ça. On va aller écouter une autre plage qui s'appelle At the Store. C'est au magasin. Avec des mélodies assez tonales comme ça, qui sont faites avec un synthé qui s'appelle un Roland SH-3A. Il n'y a que deux instruments, la sitar, le field recording et ce synthé. Écoutez comment la musique revient dans le feed, regardez-moi.
De repenser quand je recevais une pièce de 20 francs belge, ouais. Vous savez, l'équivalent de 50 centimes d'euros, je pense, et que j'allais chercher mes petits bonbons à la sortie de l'école.
Tout ça est convoqué. On va passer directement au quatrième extrait, s'il te plaît, Félix. C'est après l'école. Et on va entendre cette mélodie enfantine qu'on détruche, qu'on peut retrouver chez Stravinsky, chez Bartok. Ta 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 ta. Et c'est drôle parce que on parlait tout à l'heure de Vinciane Després. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de chants des oiseaux avec Messiaen,
oui.
Et comment Vinciane...
Absolument, les livres, donc j'ai plus le titre, vous m'avez dit.
Habiter en oiseau.
Voilà, c'est ça.
Et donc elle expliquait comment Amère répétait les strophes et finissait, quand il changeait une toute petite note à la fin, il adressait quelque chose, il y avait quelque chose qui était important pour ce merle, quoi. Et là, c'est un peu la même chose où tous les sons deviennent importants, tous les bruits deviennent... ont vraiment de l'importance, quoi. Et du coup, ça nous force à écouter. Moi, je l'ai écouté au casque, cet album, pour la première fois hier soir. Avant, et déjà, je le trouvais génial en le faisant emplir une pièce, comme ça, en l'écoutant avec les enceintes. Mais au casque, c'est tellement intime. On se dit, ce type qui était en fauteuil roulant, donc Ernest Hood, il a eu la polio dans les années 50, et donc il était vraiment sur son fauteuil roulant. Il avait monté une émission de radio, et tout ça, il a placé des cartes postales audio, en fait. Il a collecté des sons pendant 20 ans, et il a fait juste cet album qu'il a pressé à 1000 copies, et il vient d'être sorti en 2019 par un label qui s'appelle Freedom to Spend. Et c'est un bijou. On va écouter le sixième extrait, s'il te plaît, Félix. C'est Gloaming, le crépuscule. On va entendre de la... Oh, c'est... Comme le bruit de la tondeuse à gazon mercredi après-midi. Il y a un avion.
Quel bel atterrissage.
On a le temps pour juste le début du dernier extrait, parce que c'est... Non, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Bon, bah, Neighborhood de Ernest Hood. Comment dire ?
Ah, écoutez, ça nous...
oui,
sans
oui,
plus
ça...
attendre.
Et puis voilà, ça reconvoque tout le monde, la Bernie Krause aussi, de leur grand orchestre animal. C'est... Mais même Bartok et John Lomax, tout... ça nous force, c'est pas que ça nous force, non, ça nous aide à écouter le monde, le chant du monde, quoi.
Et continue à l'écouter.
Et je vous conseille le livre d'Alexandre Galland qui s'appelle Field Recording, 100 albums à découvrir, quoi. Voilà, c'est superbe.
Magnifique. Moi, vous savez ce que j'adore avec vos chroniques, Christophe, c'est qu'on sent tout ce qui vous a construit aussi en tant qu'artiste. J'aime beaucoup toutes ces influences et puis je les retrouve tout à fait dans ce que vous faites aujourd'hui. D'ailleurs, chers auditeurs, Christophe Chassol sera en concert le 17 juin prochain au Trianon, dans le 18e arrondissement à Paris. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller découvrir ce que fait Christophe, parce qu'on entend parler tous les samedis à la radio, mais voilà, c'est un artiste extraordinaire. extraordinaire. Allez écouter au Trianon sans plus attendre. Je vous rappelle, c'est le 17 juin et vous pouvez aller prendre vos places sur le site du Trianon. Évidemment, letrianon.fr.
Autopromo.
Je pense, autopromo, dont vous n'étiez pas au courant, je précise. Bonjour Gabriel Oliver Aguillon.
Quelle équipe vous faites là?
C'est pas mal,
ouais, hein?
Quelle époque épique.
Oh là là, il est en forme. Nous irons ensemble au concert, Gabriel.
Ah, bah pourquoi pas?
Ça peut être sympa.
Mm-hmm. Avec plaisir.
Mais voilà, je suis sûre qu'on trouvera plein de nos auditeurs aussi qui rêvent de rencontrer Christophe en vrai.
Il y a 100 euros à chaque personne qui vient.
Voilà. Là, c'est
le
dit.
Mot
hein.
Clair, ouais, c'est clair. Faites attention à ce que vous dites. Que
moi, j'arrête de parler maintenant. Je vous laisse. Hein.
Gabriel, vous allez bien?
Oui, très bien. Merci beaucoup.
Bah, on vous retrouve dans un instant pour France Musique est à vous.
Bon week-end à vous deux.
Merci beaucoup. Salut. Et merci à Marie-Ferdinand, Félix Levaché, Déborah Dagobert et Xavier Atto. Merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.